Radio Mieux-être. CJLV AM 1570.
Radio Mieux-être vous présente l'émission Prendre sa vie en main. Une présentation de l'Institut de formation en relations humaines et en soins énergétiques. Voici votre animatrice, Annick Lemay.
Alors bonjour et bienvenue à l'émission Prendre sa vie en main. Donc, vous êtes avec Annick Lemay aujourd'hui et j'ai une invitée, Carole Grenier, que je vais vous présenter à l'instant. Alors, Carole, en fait, bon, depuis son mariage à l'âge de 20 ans, Carole Grenier, qui est experte budgétaire, commence à tenir un budget. Okay, grâce à celui-ci, à 31 ans, elle avait déjà payé sa première maison, même si les taux d'intérêt variaient entre 10 et 11 % lors de l'achat, ce qui est pas peu dire quand même. Donc, en 87, elle achète un condo qu'elle revendra après 9 ans et à ce moment-là, il reste un an de paiement. Donc, pourtant, elle a vécu une période d'endettement dans sa première année de mariage, de surendettement aussi au moment où elle relâcha les rênes de son budget. Donc, elle s'en sortit après 18 mois, puis revient à un mode zéro dette. Donc, ça, c'est un concept là, qu'on va parler plus tard. Donc, comment Carole a fait? Donc, on va effectivement en parler là, tout au long de l'émission. Donc, Carole a également travaillé pour la Banque Royale dans une équipe de planificateurs financiers pendant 8 ans. Elle s'est très vite rendue compte que les clients avec des actifs importants n'avaient pas de liquidité. Hein, donc, c'est alors que lui vint l'idée de partir son entreprise qui est Conseil Budget afin d'aider les gens à établir un budget et à le respecter. Donc, vous avez deviné hein, qu'on va parler de finances aujourd'hui. Donc, dans l'émission, c'est prendre sa vie en main, mais on va regarder l'aspect financier de notre vie parce que on peut vivre différentes situations dans la vie qui vont faire en sorte qu'on va vivre du stress, de l'anxiété. Il peut même avoir des chicanes, des conflits, des relations de couple qui vont se briser aussi, hein, parce que on n'a pas la même conception de l'argent. On n'est pas, il y en a qui sont une personne qui est plus insécure, l'autre moins. Alors, on va parler de tout ça ensemble aujourd'hui. Donc, bonjour Carole.
Mais bonjour Annick, ça me fait plaisir et merci de m'accueillir.
Bien, plaisir d'être que tu sois avec nous parce que je pense que ton expérience va être fort enrichissante pour les gens qui nous écoutent. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles d'abord un peu de ta situation à toi, tu sais, ta relation avec l'argent parce que tu me disais, hors d'onde, que tu viens d'une famille de 7 enfants. Donc, toi, tu es la plus vieille et ton premier travail rémunéré, donc c'était à 10 ans où tu as reçu, je pense, 25 cernes pour faire le lavage là, d'un plancher chez une dame. Ça. Donc, parle-moi de la relation que tu avais avec l'argent quand tu étais jeune, comment ça se passait pour toi, pour ta famille? Parce que je pense que ça a sûrement un lien hein, avec oui. Comment on va gérer notre propre argent quand on va être rendu adulte, finalement.
Oui, c'est sûr que c'est important l'influence de la famille, des parents et même des oncles, des tantes. Mm. On a des modèles de richesse ou de pauvreté dans la famille et on peut se jumeler à ces idées-là quand on est jeune et ça nous reste et on bâtit après ça notre vie en fonction de ces modèles-là. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est toujours des bons modèles. Alors moi, quand j'étais plus jeune, c'est certain que c'était pas sorcier. Si je voulais de l'argent, je devais aller la chercher, je devais travailler parce que mes parents travaillaient. Ma mère avait une garderie, mon père avait du travail à l'extérieur, il y avait des revenus d'appoint. Alors, il travaillait tout le temps, je le voyais le dimanche seulement. Mmh. Et puis, j'ai commencé à travailler avec mon père aussi. Alors, oui, à 10 ans, j'ai fait un premier travail, mais pour en venir à ce point-là, j'ai dit à un moment donné à ma mère que je trouvais ça difficile de laver un plancher. Imaginez, j'avais 10 ans. Alors, fallait laver les planchers à quatre pattes à ce moment-là. C'est des prélards en des tuiles. Alors, c'était quand même difficile. Et ma mère m'avait dit, Carole, si c'est trop dur pour toi, mais t'es pas obligée de le faire. T'as juste à lui dire que tu ne peux plus travailler. Alors, je lui ai mentionné et elle a dit, OK, c'est parfait. Fait que là, je suis partie. Mais moi, ce que j'avais pas pensé, par exemple, c'est que le 25 sous, je ne l'avais plus. Alors, à ce moment-là, mon père me donnait 10 sous à chaque dimanche pour l'argent de poche. Mm-hmm. Et j'avais 25 sous de plus. J'étais la plus vieille chez moi et mes sœurs et mes frères avaient 10 sous eux autres aussi. Alors, ouais. Moi, je me sentais riche, là. Mm-hmm. Alors, je pouvais accumuler mon 25 sous ou le dépenser au complet, là. Ça, je me souviens pas exactement, mais je pense que j'ai dû le dépenser au complet.
Oui. Okay.
C'est avec les années que c'est venu que j'ai compris qu'il fallait que j'en mette de côté si je voulais avoir quelque chose dans la vie.
Puis comment t'en es venue à comprendre ça, toi?
Disons, quand je me suis mariée, ma mère m'avait donné un conseil. Elle a dit, Carole, si tu, maintenant que tu es mariée, tu devrais te faire un budget. Alors, c'est sûr que j'ai pas écouté ma mère tout de suite. J'ai fait ce que, à ma tête, j'étais mariée. On recevait nos amis la fin de semaine. Alors, nos revenus allaient à peu près tous sur le souper du samedi soir. Mm. Okay? La semaine, on vivait simplement. Okay. On n'avait pas vraiment de revenus additionnels pour faire toutes sortes de choses.
Okay.
Et puis, on avait une carte de crédit qu'on a maximisée. Alors, on l'a maximisé, payé. On a fait ça trois fois avant de se rendre compte.
Quand tu dis maximisé, c'est que dans le fond, tu as atteint la limite.
La limite,
là, tu l'as rempli
c'est ça,
jusqu'à
on l'a
la
rempli.
Limite.
Alors, à ce moment-là, une carte, nous, on avait une carte, on avait 700 $ sur la carte, puis c'était vraiment important comme chiffre, là,
oui.
À ce moment-là. Et on nous appelait quand on arrivait à la limite. On nous en donnait pas plus, là. On nous appelait pour nous dire, hey, c'est le temps de payer.
Okay.
Alors,
ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui,
non, c'est ça, ils augmentent. En plus.
Ou en tout cas, je pense qu'ils ont plus le droit maintenant d'augmenter la limite sans qu'on ait donné l'autorisation.
C'est ça.
Mais, ouais.
Alors, c'est ça. Fait qu'après trois ans, on s'est dit, mais si on veut une maison, là, on commençait à parler d'avoir un enfant, d'avoir une maison, mais si on veut ça, il faut de l'argent. Mm. Et on peut pas faire autrement que si on veut l'accumuler, il faut la ramasser, il faut arrêter de dépenser ailleurs.
Okay.
Alors, c'est des choix qu'on fait. On peut décider de vivre notre vie comme ça, toute notre vie. Ça, c'est correct. Il y a des gens qui le font, puis sont heureux comme ça. Mais il y a des gens qui veulent avoir une maison, qui veulent offrir ça à leurs enfants, ou qui veulent deux voitures, ou qui veulent faire des voyages. Alors, il faut accumuler l'argent. Fait qu'à 23 ans, on a commencé à ramasser l'argent. Puis depuis, je fais un budget depuis que j'ai 23 ans.
Okay.
Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté, mais ça, on va en parler tantôt.
Okay.
Mais c'est là qu'on a commencé qu'on a compris qu'il fallait accumuler. Et puis, c'est intéressant de voir l'argent qui s'accumule dans un compte. C'est bizarre peut-être de dire ça, mais faut pas avoir honte d'avoir de l'argent.
Mm-hmm.
Alors, faut être capable d'assumer d'avoir de l'argent.
Parce qu'une des relations, dans le fond, que les gens ont en lien avec l'argent, c'est un peu la culpabilité. Certaines personnes ont une culpabilité de « moi, j'en ai plus que l'autre ».
Oui.
Hein, puis là, mais ça nous incite souvent, cette culpabilité-là, à jamais en garder dans notre compte de banque.
C'est
donc,
ça.
À la dépenser. Puis finalement, on se retrouve à la limite avec peut-être plus de biens ou on va plus souvent au restaurant, mais on n'a pas plus d'argent nous reste que la personne à côté qui gagne quatre fois moins de salaire que nous, là.
C'est ça. Puis on peut appeler ça du sabotage aussi.
Oui, hein.
OK. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir d'argent. Ils savent pas pourquoi. Ils vont gagner des très bons salaires. Ils vont s'organiser pour tout le dépenser et pour s'endetter.
Oui.
Et pour faire faillite. Mm. Alors, pourquoi ces gens-là font ça? Il y a des scénarios qu'on a ancrés et qu'on a vus quand on était jeune et qui font qu'aujourd'hui, on n'accepte pas de faire de l'argent. Alors, ça peut se travailler avec des coachs, selon
c'est
moi.
C'est ça. Dans le fond, c'est de comprendre c'est quoi notre relation avec l'argent.
C'est ça.
Puis qu'est-ce que ça a? C'est quoi le code qui est inscrit?
Oui.
À l'intérieur de nous, le code émotionnel, la programmation en lien avec l'argent qui fait que soit qu'on est très, très insécure puis on a toujours peur d'en manquer, même si le compte de banque est plein, on est très insécure parce qu'il y en a beaucoup de gens qui vont accumuler pour leur retraite.
Oui, ils laissent l'argent même dans le compte de banque.
À la retraite,
oui.
Et ils accumulent encore. Il y a quelqu'un qui me disait...
Il dépense
moi,
pas.
Mon père, il me dit, tu sais, je dis, mais papa, pourquoi tu te payes pas telle affaire? Il est rendu à 70, 75 ans. Mais non, mais il dit, je faut que j'en aille pour mes vieux jours. Fait que là, la personne dit, ouais, mais ça va être quand tes vieux jours? <t'sais>? Finalement, à 75 ans, si c'est pas tes vieux jours, c'est quand? Mais quand on a cette programmation-là depuis toujours, on s'en débarrasse pas à retraite, là.
C'est ça. J'ai rencontré plusieurs clientes de 70 ans et plus et qui ont peur de dépenser et en faisant un budget, elles se sont rendues compte qu'il y en avait assez.
Okay.
Alors là, ils peuvent se permettre de faire des cadeaux, des cadeaux aux enfants, aux petits-enfants, parce qu'ils vont en avoir assez jusqu'à temps. On peut y figurer qu'on peut vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans, 120 ans. Ça dépend de notre condition de santé aussi.
Oui.
Mais des gens en très bonne santé, c'est facile quand même de calculer le montant d'argent qu'on a besoin pour vivre.
Oui. Oui.
Et puis, on
surtout rendu à cet âge-là, on sait à peu près c'est quoi nos dépenses.
Si on est rendu à 80, on est déjà encore en bonne santé, à part un accident, on devrait continuer comme ça là, assez longtemps.
Tout à fait. Donc, en fait, ce que j'entends, c'est que donc toi, tu travailles maintenant avec les gens pour les aider à faire des budgets.
Oui.
Donc, si tu commençais juste par nous dire, c'est quoi un budget? Tu sais, parce qu'on entend souvent ça, faire un budget, mais... C'est quoi ça, dans le fond, un budget? On fait la liste de comment ça nous coûte, on ajoute quoi, on enlève quoi, tu sais? C'est quoi les ingrédients, là,
c'est ça.
Mais
disons, si on fait une recette, là, comme si on faisait un gâteau, là, alors c'est certain que faut tenir compte des revenus qu'on gagne.
Oui.
Et on devrait dépenser moins que qu'est-ce qu'on gagne.
Oui.
Alors ça devrait être la norme.
La règle de base.
La règle de base, d'accord? Et souvent, les gens font des listes, ce qui est très bien. Déjà, avec une liste, on sait ce qu'on a à payer.
Donc, fixe, hein, de frais
c'est
fixes.
C'est des frais fixes, mais des frais variables aussi. Mais on sait qu'on va les payer quand même. Comme une compagnie de télécommunications, ça peut être un frais variable. C'est un frais fixe dans un sens parce qu'on sait qu'on va le payer à chaque mois, mais c'est un frais variable parce que si on loue des films, si on rajoute des choses, si on rajoute des jeux...
C'est ça, notre forfait de base sur notre téléphone, c'est 60 $, mais d'un mois, ça peut être 70, l'autre mois, 80.
Si on fait beaucoup d'appels ou si on oublie de le fermer quand on va en voyage, ça peut coûter beaucoup plus cher. Alors ça, c'est des frais variables, mais qui sont récurrents. Alors, ça revient tout le temps à chaque mois. On sait qu'on va les payer.
Okay.
Alors, la liste, et après ça, ce qu'il reste, on va décider ce qu'on fait avec.
Parfait. Donc, on va se laisser pour la pause, Carole, puis on va revenir avec la suite de comment on gère nos finances pour avoir une belle santé émotionnelle et financière. Donc, on se revoit. Vous êtes avec Annick Lemay à Radio Mieux-Être. Alors, vous êtes de retour à l'émission Prendre sa vie en main avec Annick Lemay et je suis aujourd'hui avec Carole Grenier, qui est experte budgétaire. Donc, on s'est laissé avant la pause sur qu'est-ce que c'est faire un budget? Parce qu'on se disait que, dans le fond, une des façons d'arriver à avoir une santé financière, c'est entre autres de se faire un budget. Donc, tu me disais, on peut se faire une liste de frais fixes / variables, c'est-à-dire que dans les frais variables, il peut avoir un téléphone, notre téléphone cellulaire, par exemple, ou notre compte de télévision, mais on le sait qu'on va avoir à payer ça tous les mois, mais on sait pas nécessairement toujours combien ça va nous coûter. Tout dépend si on se loue un film, si on fait des dépenses supplémentaires. Donc, le budget, finalement, ce que je comprends, c'est de se faire une liste de toutes les dépenses qu'on va avoir, mais pas nécessairement juste dans le mois.
Non, c'est ça, parce qu'il y a aussi les dépenses annuelles. Alors, les gens qui font des listes vont penser aux dépenses qu'elles doivent payer à chaque mois.
C'est hypothèque, voiture, assurance.
Ça revient toujours, on les oublie pas. Mais vous avez aussi des dépenses qu'on paye une fois par année. Alors, ça peut être le permis de conduire, immatriculation, changement de pneus, la mise au point de la voiture. Ça peut être les camps de jour pour les enfants. Ça peut être les camps d'été qui sont quand même importants. Puis, il peut avoir des dépôts. On peut avoir une économie sur un camp d'été quand on fait un dépôt au mois de février, au mois de mars. Alors, quand on ramasse l'argent d'avance, qu'on a l'argent au bon moment, bien, ça nous fait économiser. Alors, les dépenses annuelles, moi, ce que je préconise, ce que je dis aux gens de faire, c'est de noter sur une autre feuille les dépenses annuelles, d'additionner tout ça ensemble et de diviser par 12.
Okay.
Alors, à chaque mois, ce montant-là devrait être mis de côté dans un compte à part ou une enveloppe ou dans un pot en vitre, n'importe
comme
quoi.
Le médium qu'on choisit, le format qu'on choisit.
C'est ça. Et puis, c'est mis de côté et on pige dans ce pot-là ou dans ce compte-là seulement pour des dépenses qu'on a mis sur la liste annuelle. Alors, c'est pas de l'argent qu'on prend pour aller au restaurant.
Oui. OK? Mais parce que des fois, ça peut être bien, bien tentant quand on a un petit pot de vitre là, dans l'armoire, là, puis on se dit, tiens, je vais me prendre un vin.
Oui.
Je vais aller faire une dépense. Puis finalement, je le remettrai tantôt, mais on oublie de le remettre.
C'est ça. Alors, ça arrive, oui.
Ouais,
c'est ça. On oublie.
OK. Donc, j'aimerais ça qu'on en profite pour que tu nous parles du concept zéro dette, parce que tu sais ce que j'entends avec ton la façon que tu proposes de faire un budget, c'est que dans le fond, si on planifie nos dépenses annuelles, puis là on rentre aussi les cadeaux de Noël, tu sais, dans le fond tout l'argent,
les anniversaires
qu'on va dépenser, on a une idée là, de que nous à Noël habituellement ça nous coûte 300$ ou ça nous coûte 500 ou ça nous coûte 1000. Tu sais, on a la fête de notre frère, de notre mère, de notre beau-frère. Tu sais, on a une idée en fait. C'est juste qu'on y pense pas quand on fait notre budget souvent de rentrer ces dépenses là. Et tout ça, ça peut nous mener à quelque part au concept zéro dette.
Oui.
Puis c'est quoi ça, zéro dette? C'est quoi ce concept là?
Moi, le concept zéro dette, c'est d'arriver à ne pas premièrement, ne pas avoir de dette.
Oui.
Mais ne avoir le moins de paiement possible.
OK. Puis quand tu dis pas de dette, là, Carole, tu parles-tu même de pas avoir d'hypothèque puis pas avoir de paiement d'auto,
mettons? Non, c'est sûr que l'hypothèque, que ce soit un loyer ou une hypothèque, la plupart des gens ont ce paiement-là à faire. C'est certain que quand la maison est payée, c'est fantastique, là, parce qu'on est vraiment riche. Mais le paiement automobile, comme moi, ça fait peut-être 30 ans que j'ai pas de paiement automobile. Mm-hmm. Alors, quand j'achète une voiture, c'est certain que j'achète pas la voiture de l'année, là.
Oui.
Mais quand j'achète la voiture, j'utilise le plus d'argent d'économie que j'ai possible pour faire mon achat. Mm-hmm. Mais quand je vais magasiner ma voiture, ce qui est très difficile, c'est que j'ai un budget dans ma tête. Mm-hmm. Je ne dois pas, exemple, la dernière voiture, je devais pas dépasser 5 000 $.
Okay. Okay?
Alors, ça fait quand même 6 ans que j'ai ma voiture. Alors, ça fait quand même un petit bout. Mais je ne devais pas dépasser 5 000 $.
Okay.
Mais quand j'arrive dans le stationnement du concessionnaire, lesquelles voitures qu'on regarde, c'est celle qui coûte 6 000. Mais ce que vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que chez le concessionnaire, il y a des voitures de 1 an, 2 ans, 3 ans.
Oui.
Moi, avec le prix que je voulais mettre à ce moment-là, c'était une voiture de 4 ans que j'avais besoin.
Oui.
Alors, je pouvais pas me permettre celle qui avait juste 3 ans. Alors, j'ai trouvé ailleurs où ce qu'il y avait des voitures moins récentes qui allaient dans mon budget.
Oui.
Et quand il m'en manque un peu, moi, j'ai une marge de crédit hypothécaire sur ma maison. Alors, je sais que j'attends un montant d'argent, je peux attendre un retour d'impôt ou quelque chose du genre. Dans le temps, je travaillais à temps plein, j'étais pas travailleur autonome, alors j'avais des retours d'impôt qui rentraient.
Mm-hmm.
Et puis, là, je savais que ça allait rentrer. Alors, j'utilisais la marge de crédit pour faire le paiement qui manquait et je savais que le montant allait rentrer, puis j'allais rembourser ma marge. C'est ce que je faisais parce que c'était ma voiture. Et la marge de crédit, c'est de l'argent familial. C'est l'argent qui appartient aux deux.
Mm-hmm.
Et moi, mon conjoint, selon moi, mon conjoint, dans mon budget à moi, il paye pas ma voiture.
OK.
Alors, c'est remboursé. C'est des ententes entre couples. Parce que selon les couples, il y a des couples qui se partagent tout. Il y en a qui séparent en proportion. Il y en a qui séparent 50-50. Ça dépend des ententes là, qu'il y a dans les familles.
Tout à fait. Donc, ce qu'on se dit, c'est que le concept zéro dette, c'est... On exclut le paiement de la maison ou du loyer.
C'est ça.
Dans le fond, dans ça, mais tout le reste...
C'est payé. C'est ça.
Donc, on n'achète rien si on n'a pas l'argent dans notre compte de banque. C'est ça que tu dis, là.
Mais comme pour la voiture, le paiement... quand on prend un paiement mensuel, exemple, on va peut-être garder la voiture 6 ans, 7 ans, 8 ans. Maintenant, on fait des prêts sur 7 ans et 8 ans chez les concessionnaires, chez les centres qui vendent des voitures. Alors... Moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir un paiement, si j'en avais un, exemple, que j'avais pas le choix, je prendrais un paiement automobile le plus petit possible, mais le moins de temps possible.
Oui.
OK?
Ouais.
Alors, ça veut dire qu'il faut choisir l'auto en conséquence, là. Je peux pas acheter une Mercedes avec ça.
Okay? Tout à fait.
Alors, mais ça dépend de mes revenus.
Ça dépend de ton budget.
Parce que c'est relatif.
Si tu peux te le permettre, tu peux.
C'est ça.
Mais...
Alors, en prenant le paiement, il faut s'assurer que si on achète la voiture chez un concessionnaire automobile, il faut s'assurer qu'on peut faire des paiements d'avance sans pénalité.
Ah, OK.
Alors, il peut y avoir des clauses qui vous empêchent de payer un contrat plus vite.
Mm-hmm.
Alors, si vous n'avez pas de pénalité à le faire, vous prenez un paiement qui a de l'allure.
Oui.
Il y a certains mois, vous ne pourrez pas en ajouter parce qu'il y a des mois à 5 semaines, puis il n'y a pas 3 payes ce mois-là.
Oui.
Alors, on ne peut pas le faire. Mais il y a certains mois où on peut le faire, on peut mettre des paiements additionnels.
Mm-hmm.
Alors, moi, ce que je ferais, c'est que si j'avais un paiement, disons, sur 3-4 ans,
mm-hmm.
dès que j'aurais des revenus additionnels, je mettrais des paiements sur mon prêt automobile pour aller plus vite. Ça, avec la banque, il n'y a pas de problème. C'est des prêts qu'on peut rembourser en totalité là, le plus tôt possible.
Moi, quand je t'écoute, là, Carole, puis que je me mets à la place des auditeurs, puis même de moi-même, là, je me dis, mon Dieu, qu'elle est disciplinée. Pis ça a donc l'air facile pour elle.
C'est ça.
Donc, qu'est-ce que tu dis à ceux? Parce que moi, j'ai l'impression là, que ta façon de fonctionner, c'est une belle façon, mais que dans le monde, dans la tête ou dans le monde de plusieurs personnes, c'est quasiment irréalisable.
Oui,
qu'est-ce
mais
que tu as envie de me répondre à ça?
Bien, ça prend de la discipline, mais ça prend de la pratique.
Okay.
Ça prend de la constance.
Mm.
Okay? La constance est importante aussi. La discipline, il ne faut pas voir ça comme de l'esclavage, là,
mm-hmm.
Comme une pénitence. La discipline, c'est comme un athlète qu'on doit voir ça. Okay? Un athlète qui veut aller en compétition,
mm-hmm.
est-ce qu'il va décider que pendant 2 semaines, il ne s'entraîne pas? Puis 2 semaines après, il s'entraîne un peu. Puis là, il va donner un petit sprint. Puis après ça, il prend ça mollo.
Non,
ça marche pas comme ça. Si tu veux atteindre ton objectif, il faut que tu sois discipliné.
Mm-hmm.
Alors, la finance, c'est la même chose. Le budget ou votre liste de dépenses, mais votre liste de dépenses, là, vous pouvez mettre l'épargne dessus.
Mm-hmm.
L'épargne, dans un budget, c'est une dépense.
Mm-hmm.
On met de l'argent de côté, on se paye en premier.
Mm-hmm.
Ça, il y en a beaucoup qui parlent de ce concept-là, de se payer en premier. C'est ça que ça veut dire.
Okay.
Ça veut dire que dans un budget, on doit mettre de l'argent de côté à l'épargne et après, s'il en reste, oui, on peut se payer des petites choses
extras.
Pour se dorloter ou se faire plaisir.
Okay.
Alors, il faut tenir compte des réserves qu'on doit mettre de côté pour les paiements annuels, les paiements mensuels. On se met de l'argent de côté aussi en réserve. Pour,
mm-hmm.
Ça peut être pour des urgences.
Mm-hmm.
Et puis après ça, s'il en reste,
quand il en reste,
on fait, là, à ce moment-là, on peut vraiment se gratter.
OK. Puis quand tu dis épargne, moi, la question qui me vient, c'est, OK, on met, mettons, je mets 100 $ par paye en épargne. Okay, par exemple, puis c'est beaucoup, là, j'imagine, 100 $ par paye. Mais quand est-ce que je peux la dépenser, cet argent-là? Tu sais, dans le fond, parce que moi, j'ai l'impression que quand on met de l'épargne, c'est pour... on a besoin que ça reste dans notre compte de banque.
Ouais. Non, mais c'est ça.
Là, c'est comme... À quoi ça sert, cet argent-là, dans le fond, de l'épargne? Qu'est-ce qu'on fait avec?
Mais quand vous faites votre ligne... Quand vous écrivez votre ligne épargne,
ouais.
vous pouvez écrire à côté épargne pourquoi.
Ah, OK.
Alors, ça peut être épargne pour aller une semaine au spa l'année prochaine. Dans un centre de santé. Ça peut être pour aller en Thaïlande. Ça peut être pour aller à Disney World. Mais vous mettez un nom sur votre épargne. Ça, c'est de la motivation là, que vous inscrivez quand vous mettez votre projet à côté de la ligne épargne. Parce que épargne, ça veut rien dire.
C'est ça.
OK, il n'y a pas de motivation.
Tout à fait.
Alors, si vous voulez faire un projet de rénovation sur votre maison, vous voulez avoir la cuisine de vos rêves,
mm-hmm.
mais ça serait bon de ramasser avant parce que ça dépasse toujours le budget de toute façon quand on fait des rénovations. Alors, si vous en avez d'avance, ça peut vous aider vraiment à bien terminer votre projet,
oui.
à ne pas vous chicaner avec votre conjoint ou conjointe parce que quand on est dans les travaux, c'est vraiment difficile de se retenir
oui.
et de contrôler ses dépenses.
Oui, puis tu sais, on parle de travaux, là. Moi, mon père est en construction depuis toujours puis il dit tout le temps, tu te fais ton budget puis à la fin, tu ajoutes 10 %. Parce que
ouais.
ça va, même si tu fais un budget, là, lousse, là, tu dis, non, je me suis mis du lousse, là. C'est sûr que ça va te coûter plus cher parce que tu vas dire, le lavabo, 200 piastres de plus.
Ah, ouais.
La lampe, juste 50 piastres de plus. Mais à un moment donné, avec tout ce qu'il y a, ce qui peut rentrer dans la rénovation, par exemple, d'une cuisine,
ouais.
les 50 $ ici, 100 $ là, 200 là, ça finit par faire quelques ouais. milliers de plus, là, finalement.
C'est ça.
Là.
Puis quand on fait de la construction, de la rénovation, on engage des gens. Ça veut pas dire
oui.
que tout le monde est capable de faire soi-même. Alors, comme moi, exemple, quand j'ai eu ma première maison, c'est une maison qu'on a achetée moins cher,
mm-hmm.
Qu'on a rénovée.
Okay.
Alors, à un moment donné, on a décidé de rénover, de faire le plancher en bois franc.
Okay.
On a enlevé le plancher. Okay? Mais il y avait 3 planchers en dessous qu'il a fallu enlever. Et après ça, il a fallu remonter le plancher parce que là, il était pas mal plus bas. Ça arrivait plus que les portes.
Ouais.
Alors là, il a fallu rajouter du bois. Comme on dit, chimer, là, je
ouais.
sais pas le terme en français.
C'est bon.
Puis, on a mis notre plancher.
Oui,
mais ça, c'était pas prévu.
Non.
Alors, moi, j'ai été chanceuse parce que c'est mon père qui m'a aidée à faire ça.
Okay.
Parce que mon conjoint était pas manuel.
Okay.
Il travaillait plus dans les affaires. Il était pas bricoleur.
Mm-hmm.
Alors, c'est mon père qui l'a fait. Et puis, si j'avais payé quelqu'un, là, ça, c'était pas prévu le temps de défaire les choses.
Mm-hmm.
Là. Alors,
fait que le petit extra qu'on se prévoit, dans le fond, c'est pour les choses qu'on sait pas
qui vont arriver, mais qui arrivent.
Qui arrivent, puis que une fois que c'est fait, une fois que tu n'as plus de plancher, Ouais. Tu peux pas dire, je le laisse là, puis oups, c'était pas dans mon budget.
Mais
à un moment
donné. Mais
ça
n'empêche pas que ça, je vais
reprendre?
Te dire que je me suis mis un budget. Quand j'ai acheté ma dernière maison avec mon conjoint actuel, on avait dit qu'on mettait un budget sur l'aménagement paysager.
OK.
Puis, à ce moment-là, c'était 1 000 OK? On avait fait un trottoir en bois, on avait acheté de la terre et tout. C'était 1 000 Alors, mon conjoint a trouvé ça très drôle parce que le trottoir n'était pas terminé, mais le 1 000 était dépensé. Okay. Alors, on a été seulement 3 ans sans bout de trottoir. C'est pas grave. On s'en, tu sais.
Ouais,
mais
ouais.
Si mais j'avais c'est... voulu, j'aurais dit non, 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 il me faut un trottoir.
Ouais, ouais, ouais.
Mais ça, c'est
mais pas de bien. Là, la discipline, puis de dire, regarde, finalement, on respecte le budget.
C'est ça.
Quand l'année prochaine, on fera le reste.
C'est ça.
On le planifiera.
C'est ça.
OK. Donc, on se laisse sur la pause, à la pause, pardon, Carole, et on revient à l'émission Prendre sa vie en main avec Annick Lemay, à Radio Musée. Alors, vous êtes de retour à l'émission Prendre sa vie en main. Vous êtes avec Annick Lemay. Je suis moi-même avec Carole Grenier, qui est experte budgétaire. On parle de finances, on parle d'argent aujourd'hui. On parle de, dans le fond, comment prendre sa vie en main, mais en prenant ses ressources, ses ressources financières en main pour nous, nous alléger la vie, j'ai envie de dire, hein, parce que on parlait tantôt, que ça peut occasionner des chicanes. Dans les couples, hein, ça peut être un irritant pour une famille aussi. Donc, on va en parler, mais juste avant, j'aimerais ça que tu me parles de, parce que je pense qu'il existe des personnalités financières, hein. Puis, on va parler de ça, puis ensuite de ça, on va s'en servir pour que tu nous parles de comment ça marche dans un couple, puis comment on peut arriver justement à réduire les chicanes potentielles en lien avec la gestion financière. Fait que c'est quoi nos
mais ce qui est important, c'est vraiment de se connaître.
Oui.
OK. Alors, on fait des gestes, on fait des actions, on consomme et on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on fait.
Oui.
Alors, oui, il y a un moment qu'il faut prendre le temps d'y penser, de réfléchir à comment on est, pourquoi on se comporte de telle façon. Pourquoi, quand je vois un chandail dans une vente de trottoir, je l'achète, je le lave et il change de couleur parce que je l'ai acheté sous coup de l'impulsion, c'était pas de la bonne qualité, j'ai pas magasiné et j'en voulais pas vraiment de ce chandail-là. Alors ça, c'est des consommateurs qui sont plus impulsifs.
Okay.
Alors, c'est pas une maladie, là. Il y a la compulsion qui peut vraiment amener l'enfer dans une vie d'une personne. Mais si on parle juste d'impulsion, c'est que vous voyez quelque chose, vous le trouvez beau.
Mm-hmm.
Alors, est-ce que vous allez l'utiliser? Mais il ne faut pas oublier que moi, il y a des choses que j'aime trouver belles et je peux l'acheter juste parce qu'elle est belle et je peux la mettre dans mon salon parce qu'à chaque fois que je la vois dans mon salon, ça me fait du plaisir parce que je la trouve belle.
Tout à fait.
Alors, on peut acheter juste quelque chose parce qu'on le trouve beau et ça, c'est correct.
Oui, oui.
Mais l'impulsion, c'est qu'on achète à toutes les semaines. On va dans un magasin. Moi, le premier truc que je donne, c'est tu rentres pas dans le magasin si tu n'as pas d'argent.
Si tu l'as pas prévu, en fait, dans ton budget.
Si tu l'as pas planifié,
dans ton budget.
C'est ça. Puis, ce que je fais aussi, c'est que, comme exemple, faire l'épicerie. On connaît tous les trucs, faut manger avant, etc. Il faut avoir une liste. Mais moi, je suis impulsive. Et puis, mes clientes ont de la misère à croire ça, mais je suis impulsive. Alors, c'est pas moi qui fais l'épicerie.
OK.
C'est mon conjoint.
OK.
Parce que s'il m'amène, ça coûte, c'est sûr, ça va coûter 10, 15, 20 $ plus cher.
Ah, mon Dieu, t'es bonne, toi, parce que moi, c'est 50 $ plus cher.
Alors, fait que c'est ça, faut se connaître. Alors, la personnalité financière, c'est sûr qu'on a des personnes dans un couple. Souvent, il y a une personne qui est plus économe que l'autre.
Oui.
OK. Tant mieux pour vous si vous êtes impulsive et vous avez un conjoint impulsif. Parce que vous ne taperez pas ses doigts, c'est sûr, parce que vous faites les mêmes choses les deux. Mais faut quand même bien gérer son
budget.
Mais
ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va avoir du succès financièrement.
Non, c'est ça.
Le succès, ça ne veut pas dire d'avoir 1 000 000, mais qu'on va bien gérer nos finances.
C'est ça.
Là.
Ça ne veut pas dire que vous allez bien gérer les finances.
C'est ça.
Mais vous pouvez avoir quelqu'un qui est économe puis quelqu'un qui est plus impulsif. Alors, les arguments viennent parce que on comprend pas que l'autre est différent de nous.
Oui.
Alors, il faut prendre le temps de
bien
se pencher
se
là-dessus, de se comprendre et de connaître l'autre.
Oui. Fait que dans le fond, il y a, si on revient aux personnalités, il y a économe. Donc, c'est la personne qui a une structure.
C'est facile.
Pour elle, moi, j'avais une amie, là, j'en revenais pas. Elle avait, je pense qu'il restait, là, 30 $ par semaine
de surplus.
De surplus. Et elle a réussi à se ramasser de l'argent. Moi, j'en revenais pas parce que moi, je suis pas très bonne en la matière. Donc, puis je me disais, avec 30 $ par semaine, t'as quand même réussi à épargner.
Oui.
Ben, elle, c'était juste un naturel, je pense. Oui. Puis, c'est une insécure aussi.
C'est ça.
C'est une personne avec une personnalité insécure. Donc, c'est sûr qu'elle, elle a peur d'en manquer puis de voir qu'elle a un compte de banque avec un certain montant d'argent dedans. Ben, ça la sécurise, elle dort mieux la nuit que...
Mais la sécurité aussi, ça peut être important de l'avoir, cette insécurité-là. Je dis pas de manquer de sommeil ou d'être anxieux, mais il faut quand même avoir une réserve, surtout quand on est seul. On peut être propriétaire, on peut être monoparental, on a des responsabilités.
Oui.
Alors oui, le 30 $ est important, là, juste comme exemple, les cadeaux de Noël, si vous mettez 30 $ par mois, ben ça vous donne quand même 360 par année pour vos cadeaux de Noël et vous ne les mettez pas sur votre carte de crédit. Là.
Tout à fait.
Alors, les petits surplus qu'on a, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire avec.
Qu'est-ce qu'on fait avec.
Alors, dans le budget, ça fait partie là, d'une étape.
Ouais.
Oui, on inscrit nos dépenses, mais oui, on doit savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec les surplus.
Oui, tout à fait. Parce que ça nous aide à se le rappeler quand on a le goût de le dépenser, ce 30 $-là.
Il ne faut pas oublier pourquoi on le garde.
C'est ça, tout à fait.
Ouais.
Donc, on revient aux personnalités. Il y a économe, tu as impulsive.
Oui.
Donc, quel autre...
Mais il y a il y a des gens qui sont équilibrés de ce côté-là.
Oui, OK.
Ils ont peut-être un déséquilibre ailleurs, mais au niveau financier, ils sont équilibrés. Alors, ça veut dire que pour eux, c'est comme juste normal de pas dépenser plus que qu'est-ce qu'on gagne.
Okay.
Et puis, ça veut pas dire qu'ils sont économes. Mais ils réussissent quand même à mettre l'épargne de côté.
Okay.
Alors, quand on dit que quelqu'un est économe, c'est que là, il rentre l'insécurité, la peur de manquer d'argent.
OK, donc là, c'est intéressant, dans le fond.
Ça.
C'est pas juste c'est pas juste que c'est juste eux autres, en fait, qui... Mais c'est pas juste que c'est juste... C'est beau, hein, cette belle phrase-là. Donc, ceux qui sont économes, ils vont se ramasser de l'argent, mais
ils la dépenseront pas.
C'est ça. Insécurité,
c'est
ça.
Il peut avoir d'autres choses, mais ils la dépenseront pas.
Parfait. Elle va toujours rester dans... C'est comme le monsieur que, à 75 ans, je le garde pour mes vieux jours.
Il garde au cas où.
C'est ça. Mais il y a une autre personnalité qui est plus équilibrée, qui, elle, va
ramasser.
Avoir des économies, mais dans un but précis.
Oui, c'est ça. Puis ça va se dépenser.
Tout à fait.
Comme nous, on avait un mode de vie très simple quand j'étais mariée. Et puis, on ramassait de l'argent. Et puis, une fois par année, pour notre anniversaire de mariage, on avait un souper au restaurant, mais on allait dans un restaurant plus chic.
Mm-hmm.
Aux 5 ans, on se payait quelque chose d'un peu plus cher. On allait dans un hôtel, on passait une nuit à l'hôtel, on faisait garder les enfants. À un moment donné, c'était un enfant. Après ça, c'était deux enfants. On faisait garder les enfants.
Mm-hmm.
Et puis, on se payait un peu plus luxueux, une sortie plus luxueuse.
Ouais.
Alors, une sortie, une nuit ailleurs, avec un souper gastronomique, les enfants chez grand-maman.
Mm-hmm.
Alors, c'est quand même... ça nous permet de rester motivés.
Oui.
Si on se paye jamais rien, si on se garde pas, si on va déprimer, on fait ça, mais on va se rendre malade.
Oui.
Alors, faut se gâter.
Puis à un moment donné, on va se rendre malade, Carole, mais à un moment donné, là, on n'en pourra plus.
On va
On va, tout d'un coup, de façon un peu compulsive, cette fois-là, on va toute la dépenser dans quelque chose qu'on a, finalement, on n'aura pas planifié. Tout à fait.
C'est ça.
Tout à fait. Et est-ce que, moi, je vois aussi, tu m'avais dit, une personnalité qui aime se faire plaisir.
Oui.
Moi, on dirait que je me classe pas pire là-dedans.
Oui.
Là. Donc, c'est quoi cette personnalité-là? En fait, comment elle dépense, cette personne-là?
Bien, c'est que la personne qui aime se faire plaisir, ses priorités sont pas à la même place. Elle n'a pas peur de manquer d'argent. C'est pas inquiétant.
Okay.
Elle va s'organiser.
Okay.
Elle va se débrouiller. Peut-être qu'elle va utiliser des liens parentaux. Ça, c'est possible, mais elle va
Qu'est-ce
se trouver
tu veux
du
dire
travail.
À des liens parentaux.
Mais elle va demander de l'argent à sa famille.
OK. Si jamais.
Si elle
met le
prix,
mois,
c'est pas grave,
pas.
Elle va l'emprunter. Puis s'ils veulent pas y emprunter, elle va aller ailleurs. Elle va trouver.
Okay.
Ou elle va trouver un autre travail. Elle va trouver un deuxième emploi. Elle va s'organiser. Et c'est pas inquiétant.
OK. Okay.
C'est vraiment. La notion de plaisir est là vraiment présente.
OK.
Et puis, c'est pas important. Ça lui fait pas peur de l'argent, là.
OK. C'est... OK. Fait que moi, je dirais peut-être 50% celle-là, mais surtout, et impulsive.
Ah, OK.
Je pense que, tu sais, si j'entends ce que tu me dis, là, ça serait ça qui me qualifierait un petit peu plus. Parce que, puis moi, tu vois, mon endroit où je dépense, là, c'est dans la nourriture.
Oui.
OK? Moi, là, manger, c'est me faire plaisir.
OK?
Donc, c'est un des moyens que j'ai pour me faire plaisir. Et je me suis rendu compte à un moment donné, parce que j'ai eu des certaines... Ben, en fait, je suis pas très bonne, comme je te dis, à gérer mes finances.
Oui.
Et j'ai eu des périodes où, moi, je gagne assez bien ma vie, mais normalement, là, je devrais en avoir pas mal plus que ce que j'en ai actuellement, okay? OK? Par rapport à mon niveau de revenu. Donc, je me suis questionnée à un moment donné à me dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Où elle va, mon argent? Tu sais?
Ouais.
Et je savais qu'elle allait beaucoup dans nourriture slash resto, restaurant. Okay.
OK?
Et comme je suis impulsive un peu, donc des fois, quand j'avais une journée difficile, une journée plus stressante, sur le chemin du retour vers la maison, même si j'avais planifié mon souper, là, je savais que ce soir, je mangeais telle affaire, puis je l'avais sorti, dégelé, tout ça. Là, me venait un goût là de manger, mettons... Ah, du sushi, me semble, ça serait bon. Puis là, ben, j'arrêtais à me chercher du sushi, puis finalement, je mangeais pas le souper. Mais c'est pas parce que j'avais pas de nourriture à la maison, là, j'en ai plein le frigidaire, tu sais. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, quand ça devient, là, je suis allée voir le besoin que j'avais. Et je me suis rendu compte que c'était le besoin de me faire plaisir.
Oui.
Donc, aujourd'hui, je n'avais pas eu assez de plaisir.
Mm.
Et là, ma façon de compenser pour ça, c'était de me payer une bonne bouffe que j'aime. Mais après ça, je me suis rendu compte, dans le fond, tu te fais pas tant que ça plaisir. Parce que, en bout de ligne, si financièrement, à un moment donné, ça devient plus difficile, ben, les restos que tu te payes, ça finit par pu être très, très le fun.
Non.
Donc, comment autrement je pourrais me faire plaisir, finalement, d'arrêter au resto ce soir-là, tu sais?
Mais les restos, ça peut être, sans les couper complètement, on peut juste les réduire.
Oui, oui, oui.
OK? Et si le besoin d'aller au resto, c'est de trouver un resto qui coûte moins cher.
Oui.
Tu sais, il y a ça aussi qu'on peut faire.
Mm.
Mais comment se faire plaisir? Mais ça, c'est il faut être créatif, là.
Tout à fait.
Alors,
tout à fait.
Il peut y avoir des choses qu'on peut faire qui ne coûtent pas très cher.
Effectivement.
Et maintenant, avec Internet, on peut juste taper activité fin de semaine, puis vous avez une gamme de liens pour toutes sortes de choses qui se passent près de chez vous ou un peu plus loin.
Oui.
Et,
qui coûte presque rien, qui sont soit offerts par la municipalité ou bon.
Ça peut être des soirées entre amis, ça peut être on partage. Moi, j'ai un jeune couple qui se sentait obligé d'acheter le vin quand il y avait des soupers d'amis.
Okay.
C'était un jeune couple de Français qui sont habitués de boire du vin et qui avaient toujours de l'alcool quand ils recevaient les amis.
Ouais.
Mais là, c'est que il était encore aux études et il avait amené de l'argent de France pour payer leurs études.
Okay.
Puis il était en train de se demander s'il allait être capable de finir leurs études parce qu'il avait trop dépensé. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils auraient dû faire leur budget au départ. Mais là, quand ils ont fait leur budget, ils n'étaient même pas certains de pouvoir terminer parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent.
Mm.
Alors, quand ils recevaient les amis, c'était toujours la grande bouffe et tout. Mais c'est ça que je dis, c'est que on peut partager, on peut amener chacun apporte quelque chose, on partage.
C'est ça, dans le fond, c'est qu'on peut recevoir les amis, mais à moins sans nécessairement se ruiner parce qu'on reçoit nos amis.
C'est ça, parce que il y a le prestige, il y a le paraître qui est important ici.
Ouais.
Alors, faut comprendre comment on est.
Oui, tout à fait. Donc, on va aller à la pause, puis on va revenir avec le dernier bloc pour compléter là notre émission sur la gestion financière, finalement, puis d'autres trucs sur comment on peut arriver à avoir une santé financière, à être plus heureux, dans le fond, dans la vie.
Parfait.
Donc, vous êtes avec Annick Lemay à Radio Mieux-Être, à l'émission « Prendre sa vie en main ». Alors, on est de retour pour le dernier bloc de cette émission-là. Donc, si vous êtes avec Annick Lemay, je suis avec Carole Grenier. On parle d'argent, on parle de budget, on parle de finances. Donc, on a parlé juste avant la pause de personnalité financière et comment on peut, en fait, relier ça à notre couple et comment on gère nos finances et, entre autres, comment on va plus ou moins s'endetter, hein, parce que, tu sais, il y a les cartes de crédit, il y a la marge de crédit, tu sais, le crédit est accessible facilement. Et si dans un couple, on n'a pas la même personnalité financière et on n'a pas la même façon de gérer l'argent, ça peut créer des difficultés. Puis je pense que tu as un exemple, un cas, là, de personnes qui avaient deux personnalités différentes et une voulait payer sa carte de crédit, l'autre le payait pas aussi vite. Puis là, ça disait, comment ça, je comprends pas. Puis parle-nous, tu sais, donne-nous cet exemple-là.
pour nous aider. À un moment donné que même la femme, je crois qu'elle m'avait comme laissé un message que fallait aider son conjoint.
Okay.
Et j'ai rencontré les deux personnes, on a fait le budget. Et après, la dame qui, elle, paye ses cartes de crédit nickel, comprenait pas pourquoi son conjoint arrivait pas à payer ses dettes.
Ouais.
Alors, ses cartes de crédit.
Mm-hmm.
Alors, après qu'on a fait le budget, elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de dépenses qu'elle ne connaissait pas.
Okay.
Alors, c'est sûr que lui avait des obligations à faire, à payer, et il restait moins d'argent et il pouvait pas éclairer ses dettes rapidement de carte de crédit.
Mm-hmm. Okay.
Mais pour les cartes de crédit, c'est ça, j'ai quand même un conseil à donner aux auditeurs. Quand on reçoit notre état de compte de carte de crédit, qu'on doit de l'argent, là, pas seulement les achats courants. Un achat courant, c'est ce qu'on a fait dans les dernières semaines avant d'avoir la facture.
Oui.
OK. Et ce qui est un mois précédent, tout ce qui n'a pas été payé complètement, ça devient une dette.
Oui, parce que là, on paye de l'intérêt sur ça.
C'est ça. Mm-hmm. Alors, à ce moment-là, quand on reçoit notre état de compte, on nous demande de faire un paiement mensuel.
Minimum.
Alors, disons que c'est 30 $ Il y a des intérêts là-dessus.
Oui.
OK. Il y a 15 $ environ d'intérêt là-dessus. Et il y a à peu près 15 $ de capital. Ça veut dire que quand vous faites votre paiement de 30 $ vous avez seulement réduit votre dette de 15 $ parce que vous avez payé des intérêts.
Ouais.
Moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'ils devraient payer leur minimum, devraient payer aussi tous les achats courants qu'ils ont fait dans le mois. Alors, si vous suivez votre budget, les achats courants que vous avez fait dans le mois, l'argent devrait être dans le compte. Parce que vous l'aviez budgété.
Parce que dans le fond, on peut se servir de la carte de crédit, pas
pour comme outil de paiement.
Du crédit. C'est juste pas juste parce qu'on n'a pas l'argent pour le payer, mais
non,
plutôt
on a l'argent
dans
le compte.
C'est ma méthode de paiement, mais l'argent est dans le compte, puis quand l'état de compte arrive à la fin du mois, je le paye.
C'est ça. Alors, les achats courants, faut pas le dépenser deux fois.
Oui.
OK, alors on le budgète on budgète la dépense et on achète, on fait l'achat courant.
Oui.
Et quand c'est le temps de payer la facture, il faut prendre l'argent dans le compte et le payer. Alors, si l'argent est resté dans le compte trop longtemps, il y a des chances qu'on la dépense ailleurs.
Mm-hmm.
Et quand arrive la facture, on peut juste faire le paiement minimum mensuel. Alors, on doit payer le paiement, disons, de 30 $ On doit payer les achats courants. Exemple, si vous avez dépensé 100 $ ce mois-là, dans les dernières semaines, ça fait 130.
Mm-hmm.
Et vous devez payer aussi les intérêts qu'on vous charge. Alors, le 15,83 qu'on vous demande ce mois-là, vous devez l'ajouter. Alors, ça veut dire que votre paiement minimum de carte de crédit devrait être de 145,83.
Okay.
Alors, ça, c'est si vous payez vos achats courants, le paiement minimum demandé, plus les intérêts.
Et ça, ce que ça va faire, c'est qu'on va baisser
la dette,
finalement. C'est comme ça qu'on peut, à quelque part,
et on ne la dépasse pas. On ne dépasse pas notre limite.
Non. C'est ça. Donc, si on veut réduire, donc ça, c'est un des trucs pour dire, OK, par quoi je commence? Donc, je veux réduire ma carte de crédit, donc mes dettes sur ma carte de crédit. Donc, on fait l'équation que tu nous proposes.
Ouais.
Paiement minimum, plus les achats courants, plus l'intérêt.
C'est ça.
Et là, dans le fond, le vrai 30 $ minimal
va aller
sur le capital directement.
C'est ça.
Et là, finalement, ça va baisser.
C'est ça. Parce que les gens qui font juste le paiement minimum, quand on est près de la limite maximale, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on finit par dépasser la limite.
Oui.
Et là, on a une pénalité de dépassement qui s'ajoute sur la facture. Alors, ça fait qu'on n'en sort pas.
Oui.
Et même si on ne dépense pas, on n'en sort plus. Parce qu'on n'est pas capable de payer le dépassement.
Mm-hmm.
Des fois, le dépassement est de 100, 200 $ parce qu'on ne s'en rend pas compte. Ça finit par s'ajouter et on n'arrive pas à le payer.
Mm-hmm.
Alors, là, on est vraiment mal pris, comme on dit.
C'est ça, tout à fait.
Ouais.
Donc, toi, là, Carole, quand tu reçois des couples, là, qu'est-ce que tu vois le plus souvent comme problématique au niveau de la gestion financière des couples? Tu sais, c'est quoi le plus grand malaise ou la plus grande source de conflit là, au niveau...
Mais disons que quand c'est de réaliser ce qu'on dépense.
Okay.
C'est ce que je vois le plus souvent. C'est
que
les gens ne réalisent pas ce qu'ils dépensent. Fait qu'en faisant le budget, on voit. Ça fait une photo. Ça prend une photo de votre situation financière. Et puis, à ce moment-là, vous savez où va votre argent.
Mm-hmm.
Et vous pouvez prendre des décisions à ce moment-là.
Oui.
Alors, est-ce que je gagne assez? Est-ce que je dépense trop?
Mm-hmm.
Des fois, c'est juste un manque de revenus. Il y a des gens qui dépensent l'essentiel, puis ils manquent d'argent.
Oui.
Alors, faut trouver une solution.
Mm-hmm.
À long terme, on peut pas continuer comme ça. Ça s'en va vers une proposition du consommateur ou une faillite. Alors, il faut prendre des décisions. Alors, en faisant la liste des dépenses mensuelles, annuel et mm-hmm. des revenus. Mm-hmm. On peut voir s'il reste de l'argent. S'il reste de l'argent, on la met sur la dette. C'est sûr que c'est une priorité mm-hmm. de réduire la dette. Ça serait pour moi la priorité numéro un, réduire mm-hmm. la dette. Mm-hmm. Alors, on doit réduire les dépenses. On peut réduire les fréquences. On ne veut pas être drastique. On peut juste réduire la fréquence ou la gamme de dépenses qu'on fait. Mm-hmm. Mais on peut être drastique aussi, puis serrer la ceinture pendant 6 mois, puis on règle la situation si c'est possible.
Ça, c'est tout dépendant de notre personnalité.
Ça dépend de notre personnalité, mais on ne peut pas être drastique pendant 2 ans.
Non. Okay? On n'y arrivera pas.
On va sauter.
Oui. Ouais.
OK? Alors, il faut vraiment bien... faut se récompenser. Mm-hmm. Alors, c'est très important, la notion de récompense. Alors, vous atteignez votre but. Disons que vous avez dit que vous alliez ramasser tant d'argent, vous alliez payer une dette. Bon, ben une récompense. C'est sûr que la récompense ne doit pas être plus élevée que la dette que vous aviez payée. Alors, on s'entend? Alors, ça, c'est important.
Ah, t'es plate, là, Carole, là. Parce que sinon, là, on n'a rien compris, là, si on fait ça. Moi, j'entends souvent... des gens qui disent je comprends pas pourquoi on n'a jamais d'argent.
Oui.
Mais on gagne mettons oui. au-dessus de 100 000 $ par année oui. à deux oui. puis on n'a pas d'argent.
C'est
on
ça.
Peut pas aller en voyage une fois par année mettons. Oui.
Mais j'ai un couple comme ça qu'est-ce qu'on voit qui disait que dans leur famille tous les gens voyageaient puis eux autres gagnaient quand même de très bons revenus puis ils n'arrivaient pas à avoir d'argent pour voyager. En faisant le budget et en voyant les dettes qu'on pouvait régler avec une solution mm-hmm. qui était faisable pour eux, je leur ai fait remarquer que s'il n'y avait pas de dette actuellement, il y aurait 500 $ chacun dans leur poche, en argent de poche, en argent personnel.
Par mois?
Par mois.
Mm-hmm.
Je pense que ça les a motivés.
Okay.
Alors, je leur avais dit, s'ils suivaient leur budget, d'ici 6 mois, il y aurait 4 500 $ dans leur compte de banque. Mais j'ai fait le suivi et 6 mois plus tard, ils avaient ramassé 5 000 $ dans leur compte de banque. Et ils étaient très fiers de me dire qu'ils avaient aussi payé leur cadeau de Noël avec leur carte, mais contents. Là, ils avaient réglé leur carte, elle était à zéro.
Okay.
Alors, c'est sûr qu'ils ont utilisé la solution pour payer l'endettement.
Ouais.
Et suite à ça, la situation était redressée. Ils ont été capables de ramasser de l'argent.
OK. Alors, donc, dans le fond, c'est de regarder. Tu sais, si on revient avec... tu sais, les conseils principaux là, que tu aurais à donner là, aux gens qui veulent, dans le fond, commencer à réfléchir ou à entreprendre des actions pour les aider à mieux gérer leurs finances. Parce que quand on gère mieux nos finances, on est déjà, on va être mieux.
Oui.
Tu sais, on va être moins stressé,
moins d'anxiété. Au niveau de l'endettement, j'ai parlé tantôt de faire des listes de revenus, de dépenses et tout, mais aussi, il faut faire une liste de nos dettes.
Mm-hmm.
Et avec les dettes qu'on a, quand on se rend compte, le montant, on peut probablement aller chercher une consolidation de dette à la banque. On n'est pas obligé de passer par un autre organisme.
Ouais.
Peut aller à la banque mm-hmm. et voir si on est capable.
Mm-hmm.
C'est sûr qu'il faut avoir un ratio d'endettement à tel montant, tel pourcentage. Il faut avoir une bonne cote de crédit. Il faut avoir fait ses paiements régulièrement.
Mm-hmm.
Si on a sauté trop de paiements, on passera pas, c'est sûr.
Ouais.
Mais en faisant l'analyse de l'endettement, mm-hmm. on peut savoir quelles solutions qu'on peut apporter pour soulager, pour au moins réduire le taux d'intérêt. Il y a des choses qu'on peut faire de ce côté.
C'est ça. Donc, dans le fond, c'est de regarder mon budget, mes dettes. Y a-t-il une façon où je peux, dans le fond, réunir toutes mes dettes pour avoir un seul paiement, puis ensuite de ça, me donner une certaine structure financière ou structure de dépenses. Mais si c'est pas possible, disons, là, moi,
c'est
je peux
si
pas,
c'est
là.
Pas possible, je peux pas aller emprunter. Une dette là. À la fois.
OK. Et on commence par laquelle?
Alors, là, on commence par celle, selon moi, quand on est vraiment serré et qu'on veut réduire les paiements mensuels,
mm-hmm.
on doit choisir la dette qui paie le plus de capital par mois.
OK.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, on entend dire qu'il faut payer la carte qui coûte le plus cher.
Oui.
Mais la carte qui coûte le plus cher, disons que vous faites un paiement ce mois-ci et vous donnez, 200 $ de capital sur votre dette.
Ouais.
Il y a une carte, une autre dette que vous avez qui coûte moins cher en intérêt,
mm-hmm.
mais quand vous faites votre paiement, vous avez 300 $ de capital de payer par mois.
Mm-hmm.
OK? Alors, c'est sûr que là, je mets des gros chiffres, ça pourrait être des plus petits chiffres,
mm-hmm.
Mais il y a quand même une importance, là, parce que si vous réduisez votre capital par un plus gros montant,
versement,
mais ça va plus vite.
Oui.
Mais là, on cherche à diminuer le montant mensuel. Alors,
oui.
Faut vraiment vous analyser chaque dette pour dire, bon, celle-là, c'est quand je la paye, je paye combien de capital? Celle-là, quand je la paye, je paye combien de capital? Puis quand vous le savez, vous payez, prenez celle-là.
Okay.
On peut aussi, si on a une des petites dettes, on prend la plus petite dette. Fait que là, on est très fiers de l'avoir payée.
Okay.
Disons qu'on a 5 dettes.
Okay.
On ne peut pas consolider parce qu'on n'est pas capable. Alors, on prend la plus petite dette et on est très fiers de l'avoir payée. Le montant qu'on mettait sur la plus petite dette, maintenant, il s'en va sur l'autre plus petite dette.
Ouais, ouais,
alors
ouais.
Là, on a doublé presque notre paiement.
C'est ça. Dans le fond, d'une certaine façon, c'est tant qu'on n'a pas passé à travers nos dettes, on prend pas, une fois qu'on a fini d'en payer une, on prend ce montant-là pour...
On le met sur l'autre.
Sur l'autre et non pas pour...
Ça va plus vite.
Dépenser celle-là.
C'est ça.
Là.
Non, c'est ça.
Peut-être une fois de temps en temps, comme tu dis, pour se faire plaisir, là, on peut se dire, bon, ben...
Se récompenser.
Se récompenser, mais c'est dans le fond, de cette façon-là, dans X nombre de mois, ou c'est tout dépendant du niveau d'endettement, on va se rendre compte que finalement, ça se paye, puis là, on respire mieux.
Oui, c'est ça.
On a plus d'espace dans notre budget.
On sait qu'on va s'en sortir.
Budget. Oui, tout à fait. OK. OK. Donc, c'est sûr, hein, Carole, qu'on aurait pu en parler encore bien, bien, bien longtemps. Mais je pense que ce que tu nous as donné déjà comme conseil, ça va avoir aidé certaines personnes, au moins à démêler tout ça, à savoir, ne serait-ce que dire c'est quoi un budget, puis qu'est-ce qu'on inclut dans notre budget, puis comment on fait nos dépenses, comment on peut arriver justement à s'en sortir une journée à la fois. Là.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est possible, finalement, de le faire.
Ça prend du courage, de la détermination.
Oui. Mais, et ce que je retiens surtout, c'est que assurons-nous ou assurez-vous, là, les gens qui nous écoutent, que vous savez pourquoi vous le faites.
Mm. Oui.
Hein, parce que, comme ça, c'est plus encourageant. On sait qu'on va avoir un gain à la fin. Puis, qu'est-ce qu'on va faire avec ce gain-là?
Oui, c'est ça. La motivation.
C'est ça, l'idée, la motivation de se trouver un pourquoi.
C'est ça. Donc, quand on n'a pas de motivation, on ne tiendra pas longtemps avec un budget.
C'est ça.
C'est pas, il n'y a pas d'intérêt à faire un budget si on n'a pas de motivation pour le faire.
Tout à fait. Donc, Carole, comment on peut te rejoindre si y a des gens qui ont envie là, d'utiliser tes services pour se structurer un petit peu plus, comprendre là, comment aller plus loin là, dans leur gestion de budget ou dans leur démarche?
On peut me rejoindre par téléphone sur mon cellulaire au 514-922-4188.
Okay. Est-ce que tu as une adresse courriel ou pas courriel,
mais
une adresse web?
J'ai un site internet qui est www.conseil-budget.com.
Okay,
et puis j'ai une page Facebook qui s'appelle Conseil Budget. Et sur cette page-là, je partage les articles qui parlent de finances personnelles et de famille.
OK, parfait. Mais écoute, merci beaucoup, Carole, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je te souhaite une belle continuité. Puis j'espère, mesdames, messieurs, que vous avez eu suffisamment d'informations pour vous aider dans votre future démarche, s'il y a lieu.
Merci,
alors, au plaisir,
Annick.
On se revoit bientôt.
Merci, Annick.
Merci, bye-bye.
L'émission Prendre sa vie en main avec Annick Lemay vous a été présentée par l'Institut de formation en relations humaines et en soins énergétiques. Cette émission est une production de Radio Mieux-Être.
Radio Mieux-Être. CJLV AM 1570.